Panorama Économique.
Bonjour messieurs et dames, bienvenue à la rétrospective hebdomadaire de l'actualité économique de la semaine sur Radio Capi. Et voici les titres. Le pétrole et l'environnement avec sa faune et flore dans le parc de Virunga. Comment procéder pour que l'exploitation de l'une de ces richesses n'impacte pas négativement sur l'autre? Cette question a été au centre d'une réflexion mardi à Kinshasa entre experts du ministère des hydrocarbures, tourisme, conservation de la nature. La Banque mondiale donne 73 millions de dollars américains à la RDC, ce dont devrait servir à préparer les conditions favorables aux investissements publics privés en vue des développements du projet Inga 3. Panorama économique revient aussi sur cette baisse criante des recettes dans les 4 postes de péage sur la nationale numéro 1 au Kassai Oriental suite au mauvais état de la route. Ce samedi, à la présentation, Daniel Taminzoni et François Kadima. Daniel, ça fait quand même un moment que les fidèles de Panorama ne t'ont pas écouté.
Justement. Radio Capi. Justement.
C'est parti.
Panorama économique, le dossier.
Dans cette émission, nous avons comme invité Al Kitenge. Il est patron de Synergie Group et stratège économiste. Bonjour, monsieur Al.
Bonjour, cher ami.
Nous allons commencer avec le premier dossier de la semaine, la problématique de l'exploitation pétrolière dans les aires protégées, le cas du parc des Virunga. Ce thème était au centre mardi à Kinshasa d'un télé organisé par le ministère des hydrocarbures et celui d'environnement et conservation de la nature.
Selon le ministre des hydrocarbures, Crispin Atamatabe, l'objectif est de concilier les divergences d'opinion qui existent en RDC sur l'exploration et l'exploitation pétrolière dans le parc de Virunga. L'atelier a formulé des recommandations au gouvernement, comme nous l'explique ici Paul Matendo.
Plusieurs personnalités ont pris la parole au cours de ces assises d'une journée, dont Crispin Atamatabe, lui-même ministre des hydrocarbures. Pour lui, certaines organisations plaident pour la protection de l'environnement. D'autres estiment qu'il faut exploiter les ressources naturelles dans les aires protégées, tout en protégeant l'environnement. À en croire le ministre des hydrocarbures, il convient d'exploiter les pétroles pour conduire le pays à l'émergence économique. Et au ministère de l'Environnement et Conservation de la Nature, d'ajouter que le plus important est de finaliser l'évaluation environnementale stratégique en cours d'étude en vue d'en connaître les impacts sur le parc de Virunga. L'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, UNESCO, gestionnaire du patrimoine mondial présente à ses travaux, a fait savoir qu'il est à ce jour impossible d'exploiter le pétrole sur le parc de Virunga, cela au regard des statuts signés par la RDC. Par contre, elle estime qu'il n'est pas exclu de poursuivre le débat sur la problématique de l'exploitation pétrolière sur ses patrimoines mondiaux. Meïssa Diop, représentant adjoint de l'UNESCO.
L'UNESCO sera disposé à poursuivre ce dialogue avec vous et se tient prêt à mettre à votre disposition toutes les informations disponibles à faciliter l'accès à l'expertise scientifique requise. Notre objectif est le même, contribuer au développement durable de la République démocratique du Congo. Nous pensons à cet égard que les sites du patrimoine mondial peuvent constituer des leviers de richesse en faveur du développement de la RDC.
Au terme de ces assises, les participants ont recommandé au gouvernement congolais, entre autres, de mettre en place un plan d'aménagement sur toutes les aires protégées. Ceci permettrait au pays d'exploiter et de bénéficier des ressources naturelles sans détruire l'environnement.
Voilà, monsieur Al Kitenge, la RDC est un pays potentiellement riche. Nous avons beaucoup de richesses. Ici, nous parlons du pétrole qu'on retrouve dans les aires protégées comme le parc des Virunga. Il faudrait protéger les aires protégées, mais également exploiter ou explorer le pétrole. Quelle lecture faites-vous de cet atelier qui s'est tenu à Kinshasa par rapport à cette problématique?
C'est un atelier pour rire, comme bien d'autres. En fait, je pense qu'il faut être sérieux. Quand on a des gens qui meurent de malaria, qui meurent de choléra, qui meurent de besoin de nourriture non assouvi, il est important de se rendre compte qu'on doit mettre tout du côté du pays pour être en mesure de donner à celui-ci les moyens de prendre en charge ses citoyens. Cette question de réserve pétrolière est une question congolo-congolaise. Nous sommes sur un parc où nous avons signé des conventions, mais je pense que le problème ne se pose même pas. deux choses. La première, on doit absolument faire l'exploration pour savoir au moins combien ça vaut. Parce que si on sait combien ça vaut, on pourra prendre la décision ou non de l'exploiter. Avant ça, ce n'est même pas possible. Et si on n'exploite pas, il y a encore une autre possibilité, c'est d'utiliser cela comme levier financier pour prendre des moyens financiers sur la place internationale et assumer le développement sans avoir à faire de l'exploitation. Je crois simplement que ce n'est pas crédible d'empêcher la République, ne serait-ce que déjà de faire l'exploration pour pouvoir évaluer la quantité et la qualité du pétrole que nous avons et des réserves que nous avons.
Ces ONG soutiennent qu'il faut que la RDC désaffecte ce site qui est réputé patrimoine mondial. Il faut lui changer de statut avant d'entrer mener une quelconque activité sur ce site.
Ce n'est pas sérieux non plus de dire ça parce que nous n'avons jamais cédé la propriété de ce parc. Ce parc appartiendra toujours à la République démocratique du Congo. Le fait de le verser dans le patrimoine mondial, c'est le potentiel touristique et bien entendu des réserves que nous avons mises dedans. Mais cela n'enlève en rien à la République démocratique du Congo la possibilité de déjà savoir ce qu'il y a sous terre congolais.
Mais pas polluer l'environnement quand même.
Il n'est pas question de polluer l'environnement, il est question de nous laisser déjà faire les évaluations pour être en mesure de savoir de combien nous disposons. Parce que si nous savons de combien nous disposons, nous ne sommes même pas obligés d'exploiter. Nous pouvons émettre des titres et les vendre en bourse pour lever les capitaux, pour faire des projets de développement qui eux peuvent rembourser sans que nous ayons besoin
de l'exploiter.
C'est comme quelqu'un qui a une belle maison, qui la met en gage, qui lève de l'argent pour faire du commerce, qui fait des bénéfices, qui rembourse le crédit, et sa maison lui appartient toujours.
Justement.
Et donc nous avons là une possibilité d'abord de savoir de quoi il s'agit, de combien nous disposons, qu'est-ce que ça vaut pour être en mesure de prendre des dispositions.
Nous allons prendre le deuxième dossier de la semaine. Le conseil d'administration de la Banque mondiale réuni jeudi à Washington a donné son avis favorable au projet d'assistance technique au gouvernement congolais pour le développement de Inga 3.
L'enveloppe est de 73 100 000 $ américains. Ce don s'ajoute à 33 400 000 $américains de la Banque africaine de développement avec le 106 500 000 $américains. La RDC devrait préparer les conditions favorables au partenariat entre l'État et le privé pour la matérialisation du projet Inga 3. Le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC et de Congo-Brazzaville explique.
La bonne nouvelle, c'est que le conseil d'administration vient d'approuver ce don de 73 100 000 $ à la RDC pour le projet d'assistance technique pour Inga 3 basse chute. Il n'y a pas seulement que Inga 3, il y a également un projet qui va toucher au développement des 3 barrages de taille moyenne pour la RDC.
Nous avons pris connaissance du projet. Son financement au moins est de 106 000 000 $américains. La Banque mondiale apporte plus de 73 millions. Et la différence, d'où elle proviendra?
Bon, la différence va être apportée par la Banque africaine de développement, qui a déjà approuvé son projet depuis la fin de l'année dernière. Et donc, ensemble, nous allons accompagner le gouvernement de la RDC pour créer les conditions pour que cet important ouvrage qui va produire de l'électricité pour la RDC et pour l'Afrique du Sud soit réalisé dans les meilleures conditions, non seulement techniques, économiques et financières, mais en respectant les règles les plus strictes en matière de préservation de l'environnement et en matière de gestion des impacts sociaux. Il ne s'agit pas de financer la construction du barrage maintenant, mais il s'agit de préparer toutes les études techniques, de mettre en place les structures qui vont être chargées de piloter la réalisation de cet important ouvrage qui sera le plus grand développement en matière d'infrastructure en RDC depuis l'indépendance de ce pays.
Le projet lui-même va débuter quand?
Mais disons que le projet va démarrer maintenant que nous avons l'accord de notre conseil d'administration. Nous avons prévu d'organiser des rencontres au mois d'avril avec le gouvernement et le conseiller du gouvernement, avec les principaux bailleurs de fonds, pour travailler sur les prochaines étapes, pour que très rapidement nous puissions commencer à mettre en œuvre cette opération.
Oui, M. Al-Kitenge, construction de barrage Inga 3. La Banque mondiale amène une enveloppe de 73 millions. C'est juste une assistance technique pour aider ce barrage?
D'abord, Inga tout entier, c'est 44 000 mégawatts, c'est près de 5 milliards de dollars dont on a besoin pour faire le projet. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que si nous faisons tout le projet et que nous avons le réseau de distribution interconnecté nationalement et internationalement, c'est plus ou moins 60 milliards de dollars chaque année. En faisant Inga 3, c'est déjà bien, mais il faudrait qu'on se rende compte que nous devons penser grand. Chaque jour qui passe, c'est à côté des milliards que nous passons en laissant nos populations dans la pauvreté. Maintenant, nous revenons à ce que la Banque mondiale et la Banque africaine de développement vont donner. C'est très bien, mais vous pensez que c'est un enfant de cœur qu'ils le font? La réponse est non. Ils préparent les conditions pour que le moment venu, ils soient en position de discuter correctement. Il faut comprendre le métier de ces institutions, c'est de placer de l'argent. Ok, et ça c'est quelque chose que vous devez être en mesure de comprendre. Deuxième chose, maintenant ils ne placent plus que l'argent, ils placent le conseil, ça se paye. C'est pour ça que je dis, il est important que la République démocratique du Congo reprenne le leadership de ce projet. D'abord parce que, un, ça ne peut pas être un projet national. La vocation du grand Inga ou du potentiel hydroélectrique congolais est internationale. Il faut donc en faire un très grand projet. Il faut dépasser les limites de la République démocratique du Congo. Il faut intégrer le maximum d'intervenants possibles. Ça veut dire, un, les grands clients, deux, les équipementiers, trois, les financiers. Il faut en faire un projet d'envergure internationale. Il n'y en a pas un dans le monde entier de la même taille. Même les trois gorges en Chine, c'est la moitié. Et donc, je voudrais que les Congolais comprennent que nos richesses, nos potentiels, tant qu'ils sont sous terre et inexploités, ça n'apportera pas du tout de la richesse, ça laissera les gens dans toute pauvreté. Et donc, moi, je salue beaucoup l'engagement de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement aux côtés du Congo, mais je crie sur le sommeil dans lequel se trouve le Congo lui-même.
Alors, peut-être quelque chose qui va vous intéresser. Avant, hier, c'était le jeudi, c'était le 20, lorsque le conseil d'administration s'est réuni et a décidé de l'octroi de ce don de 73 millions. Mais deux jours avant, c'est-à-dire le 18, le même conseil octroyait à la RDC une enveloppe de 30 millions de dollars pour financer, venir au secours du secteur des petites et moyennes entreprises en RDC.
Oui, le monde entier sait que toutes les grandes économies se développent autour des PME. Plus de 80% de l'économie américaine est tenue par les PME et les très petites entreprises. C'est honteux qu'un pays comme le nôtre, lorsqu'on nous demande combien d'entreprises nous avons, nous n'alignons même pas 3000 entreprises pour un pays comme celui-ci. C'est pas par 10 qu'il faudra multiplier le nombre d'entreprises. C'est par 100, c'est par 1000 qu'il faut multiplier le nombre d'entreprises dans ce pays pour qu'il soit couvert d'une offre technique, commerciale et financière viable. Nous ne pouvons pas continuer à avoir 60 groupes armés dans le pays et une grande partie de notre population qui n'est pas concernée par ce qui se passe au pays et qui finalement prend des armes contre la République et penser que nous pouvons continuer à gérer de la même manière. Je le dis de manière risible, mais c'est ce que je dis et je pense. Depuis l'arrivée du GSM et depuis l'arrivée de la radio Okapi, la demande sociale et politique du pays s'est multipliée par 100. Le défi politique de Mobutu n'a absolument rien à voir avec le défi politique de Kabila. Le défi politique de Kabila est 100 fois plus élevé. Et la possibilité de rendre compte à la République tout entière, parce que ça demande, est énormément élevée. Et on n'a jamais pris conscience de ça. On a continué à agir avec les anciennes méthodes, avec les anciennes armes, avec les anciennes dispositions. Non, il faut réinventer la gestion publique. Regardez ce qui est en train de se passer. Lorsque les groupes armés sont chassés, la partie qui reste sous un grand désordre parce qu'il n'y a pas une prise en charge locale, ni administrative, ni financière, ni économique. Et je pense que simplement, il faut remplacer la guerre par l'économie. Et je crois que de ce point de vue, nous avons une partie des solutions. Nous sommes en train de proposer un concept qui nous vient de la France, qui s'appelle Centre international d'opportunités des affaires. C'est en fait un centre d'incubateur et de diffusion des opportunités d'affaires. Une illustration simple. Regardez les mangoustans, regardez les mangues, regardez les oranges qui pourrissent dans la ville de Kinshasa. Mais vous, ce que vous voyez à Kinshasa, c'est 10 fois plus au Bakongo, au Bandundu et en province orientale et les provinces qui sont à vocation agricole. Il est important de diffuser les petites unités de production.
Ah, je pense là que c'est maintenant que vous voulez prendre le devant, puisque ça fait très longtemps que vous regrettez ce fait-là. Que la RDC importe des jus de fruits alors que des fruits pourrissent à travers le territoire.
Et nous importons des jus de fruits des pays désertiques. C'est là que ça choque.
Et de l'eau des pays désertiques.
C'est là que ça frappe la mémoire des Congolais. Parce qu'en fait, ça constitue notre capacité à gaspiller les ressources que nous avons. Et je pense simplement que si nous incorporons les Congolais dans l'économie, ils feront moins la guerre. Ils seront occupés, ils se sentiront partie prenante. Il faut que le pays leur donne l'opportunité de se développer. Dans ce pays, quand on dit villageois, ça veut dire un homme pauvre qui dort dans une case, qui dort dans des conditions minables et qui n'a aucune chance de se développer. Ça doit s'arrêter. La seule seule manière de s'arrêter, c'est de pouvoir être en mesure d'enrôler ces gens dans l'économie. Il n'y a pas deux manières de le faire, c'est de les connecter au marché, aussi bien national qu'international.
Mais là, il faudrait développer une culture des PME, que les Congolais n'ont pas tellement.
Il faut absolument développer des PME et les diffuser. La culture vient avec la pratique. Vous ne pouvez pas dire que c'est bon si vous n'avez jamais goûté. Et qui fait goûter, c'est l'État. C'est pour ça que l'État s'est doté des unités comme le Fonds de promotion de l'industrie, comme le Fonds de promotion de la culture, comme le Fonds de promotion de tourisme. C'est des instruments que l'État a mis en place pour être en mesure de pousser la diffusion de la richesse. Et tant que ces outils ne jouent pas leur rôle, nous serons exactement dans la même situation. On continuera à importer des cure-dents.
Ok, nous allons prendre le dernier dossier de la semaine. Direction province l'Équateur pour parler de la plainte des opérateurs économiques de Bumba ensuite. Aux difficultés d'évacuation de leurs produits agricoles par voie fluviale sur Kinshasa.
Ils l'ont dit mardi lors d'une rencontre avec la presse locale. Ces opérateurs économiques lient ce qu'ils appellent difficulté à l'absence totale des bateaux de la société congolaise de transport et de port ex-Onatra, l'absence d'une société de transport public de l'État sur le fleuve laisse selon eux place aux caprices des privés. Je vous propose d'écouter plutôt John Mongimbe, notre correspondant à Bumba, qui nous en dit plus.
Les opérateurs économiques de Bumba déplorent l'épourrissement de leurs marchandises agricoles dans les dépôts de Bumba. Selon le vice-président de l'association des commerçants de Bumba, il s'agit de plus de 100 tonnes de maïs, riz et huile de palme. Selon Jean Ganga, la plupart des bateaux venant à Bumba appartiennent à des particuliers. Le chargement des produits agricoles sur ces bateaux, dit-il, coûte cher. Un sac de maïs de 70 kg, 10 dollars par quart. Un fil de 100 litres d'huile de palme revient à 20 dollars. Américain. Ces chiffres sont confirmés par les chefs de l'ex-Onatra. Selon Maurice Ilondo, un seul bateau moyen dire moqueur arrive une fois par an à Bumba. Cette embarcation nocturne fait plutôt les transports de grumes et non des produits agricoles. Selon lui, l'ex-Onatra Bumba ne dispose plus de port propre à lui. Sur les sources de la SCPP, trois bateaux courriers sont en réhabilitation à Kinshasa. Bumba John, je serai mon gameplay pour Radio Kapi.
Voilà, vous avez suivi cette inquiétude des opérateurs économiques. Ils ont de produits qui pourrissent. Ils ont parlé d'ailleurs de 100 tonnes de maïs et huile de palme qui pourrissent parce qu'ils ne savent pas évacuer.
Il y a de l'amalgame là-dedans et chaque fois que j'ai l'opportunité de parler à mes frères, j'aime bien leur dire la vérité. Ouais. D'abord, l'Onatra est en faillite, n'est pas en état de rendre le service qu'on est en train de lui demander. Deux, le transport est un secteur totalement commercial. Il peut être rentable. Trois, il faudrait qu'il y ait de la marchandise à transporter. 100 tonnes, c'est absolument rien. Il n'y a personne qui peut faire un business plein rien que pour 100 tonnes. Il faudrait que les gens s'active. C'est là que je dis, l'État a un rôle à jouer. Mais les opérateurs privés doivent également avoir un rôle à jouer. Quand je parle de l'Équateur, je me souviens bien du caractère agro-industriel de l'Équateur. Il appartient à tous ceux qui exportent leur argent à l'extérieur et aux enfants d'Équateur de pouvoir réfléchir et être en mesure de se donner un plan de développement. Nous avons l'Agence nationale de promotion des investissements. Il est important qu'ils aient une agence provinciale de développement des investissements. Et il est important qu'ils aient un plan global qui puisse permettre que le fleuve, qui est le boulevard le plus gratuit du monde, soit utilisé à bon escient et qu'on soit en mesure d'attirer des opérateurs économiques. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose d'autre, c'est que l'État peut décider d'avoir des véritables unités en bon état pour être en mesure de charrier des marchandises. C'est ce qu'on appelle des opérations non financières mais économiques. Mais ça doit durer une période bien déterminée pour être en mesure de stimuler l'activité. Mais après, ça doit être soutenu par ce qu'on appelle la rentabilité. Et c'est extrêmement important. C'est faisable. Encore une fois, le volume compte et l'organisation compte. Il est important que nous ayons des preneurs d'initiatives.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
L'actualité économique de la semaine en bref. Parlons de cette catastrophe pour les éleveurs du territoire de Kongolonsom au nord du Katanga et aussi pour les consommateurs. Une maladie d'origine inconnue décime les petits bétails dans le groupement de Benakayaï. La maladie se caractérise par la diarrhée et les vomissements. Près de 300 bêtes ont déjà péri en l'espace de 2 semaines, ce qui constitue un manque à gagner considérable pour les éleveurs.
En Bandaka, la mairie procède depuis lundi à la perception effective dérive de la taxe annuelle sur moto et vélo à travers toute la ville. Cette disposition est dictée par une décision vise le bon fonctionnement des entités territoriales décentralisées, notamment pour financer des travaux de voirie urbaine. Le taux de ces taxes reste le même que lors de l'exercice précédent, à savoir 3000 francs congolais pour les vélos et 14000 francs pour les motos. Et pour éviter la fraude, la mairie annonce que la taxe moto, taxi et la taxe vélo sont des imprimés de valeur sur papier cartonné.
Au sud Kivu, le ministère provincial des Transports et Communications décide de relancer la taxe sur les voyageurs ou sur les passagers à bord des bateaux sur les lacs Kivu. Cela a fait l'objet d'une rencontre de sensibilisation lundi tenue par le ministre des Transports et Voies de Communication avec les représentants de la société civile, ceux des armateurs et autres services étatiques. Les voyageurs du bateau devraient payer l'équivalent $1 et celui du canot rapide l'équivalent de 2,5 dollars américains.
À la primature, la Troïka de ce lundi a révélé un solde excédentaire de plus de 17 milliards de francs congolais de toutes les opérations financières de l'État pour le mois de février. Plus de 285 milliards ont été mobilisés contre 268 milliards de dépenses sur le marché international. Le cuivre avait perdu presque 9% de sa valeur et la tonne se vendait à près de 6 500 dollars américains. La tonne du cobalt s'est négociée, elle, à 33 670 dollars contre 33 500 la semaine dernière.
Nous allons nous rendre au Kasaï occidental où tous les opérateurs économiques doivent payer les 40% restants de l'impôt sur les bénéfices et profits le 31 mars prochain. Annonce faite lundi par le chef de centre impôt synthétique de Chikapa au cours de la matinée fiscale. Ce dernier précise que le non-respect du délai imparti va entraîner des pénalités aux contrevenants. De son côté, le vice-président de l'association de commerçants de Chikapa déplore les manques considérables des déclarations déposées par ses membres à la DGI pour la taxation. Voilà, monsieur Alkitenge, un commentaire à placer sur l'une ou l'autre actualité passée tout à l'heure.
Je pense que la question des taxes a dominé de manière transversale vos différentes interventions. La taxe est une obligation citoyenne et l'État a le devoir d'en disposer de manière responsable. Ça pose ce que l'on appelle le contrat social. Je crois que cela ne repose que sur une question de solidarité. Ça veut dire que tout le monde doit payer ce qu'il doit payer et l'État qui en dispose doit pouvoir rendre compte. Je crois que si l'État congolais voudrait que le civisme fiscal s'améliore, il est important qu'il sache rendre compte. Par exemple, il y a une grande échéance à la fin de ce mois-ci, tout le monde va déclarer. Pourquoi vous, les journalistes, vous ne produisez pas le tableau comparatif secteur par secteur de ce que les gens ont effectivement payé et de leur niveau de compétitivité?
Une grande difficulté à les chiffres sont tabous.
Non. Ce sont des données de du secteur public. Ça veut dire qu'en fait, la DGI a l'obligation de vous les donner.
Mais ça fait déjà...
Les entreprises sont censées publier leur bilan.
C'est pas pour accuser. Ça ferait 5 ans que Éco d'économie existe et aucune année... On a eu une réponse à cette demande-là, savoir à la fin de l'année fiscale combien le trésor public a...
La DGI peut vous donner et doit vous donner cette information parce que les Congolais ont droit de savoir. Parce que si vous comparez secteur par secteur, vous allez vous rendre compte que certaines entreprises qui disent être grandes payent très peu. Certaines entreprises...
Justement, c'est ça, la question.
Et ça vous permettra de pouvoir, vous, créer un award où vous primez les meilleures entreprises en fonction de leur compétitivité et de leur... citoyenneté fiscale. Et je crois que vous êtes l'œil et l'oreille de la population. Vous devrez vous intéresser à ces questions et être à mesure de dire aux gens ce qui est en train de se passer, effectivement. Parce que le bilan, et bien entendu le dépôt du bilan de l'entreprise, détermine sa santé. Si nous étions dans un pays avec la possibilité d'investir dans les sociétés au travers de la bourse, ça aurait été une information viable qui est donnée à tout le monde. Et je crois simplement que vous devriez vous y intéresser.
Panorama économique, matière première.
Après plus d'une année de travail sur la traçabilité des produits miniers dans les provinces du Katanga, Maniema, ainsi que dans le nord Sud-Kivu, l'ONG internationale PACT affirme que les minerais en provenance de la RDC, autrefois considérés comme minerais de conflit ou de sang, sont aujourd'hui exportés dans des normes et commercialisés librement sur le marché international. Dans une interview accordée lundi à Radio Capi, le chef du projet traçabilité des minerais à l'ONG PACT a révélé que plus de 1000 tonnes de minerais ont été exportées à ce jour de la seule province du Maniema, dont deux territoires ont bénéficié d'une rétrocession de plus de 150 000 dollars. Luc Assossa l'a dit à Michel Kifinangoy.
Au Maniema, ça fait maintenant au-delà d'une année qu'on a lancé le projet. Et déjà au jour d'aujourd'hui, on est à plus de 1000 tonnes de minerais exportés, c'est-à-dire tracés dont on connaît précisément l'origine et donc qui peuvent se vendre sur le marché international en toute liberté parce qu'ils sont libres de conflits. Au-delà de ça, il y a quand même des impacts induits. Sur l'initiative des autorités au niveau de la province, une taxe a été instaurée et ça a permis de générer des ressources qui sont maintenant rétrocédées aux communautés locales dont est issue cette production. Et c'est notamment, par exemple, plus la première rétrocession a était de l'ordre de plus de 150 000 dollars rétrocédés notamment dans les territoires de Kailo et de Pangui et qui ont permis à ce que ces communautés décident d'investir dans la construction notamment des infrastructures sociales. Par exemple à Kailo, ils ont le projet d'un guest house qui peut générer des ressources pour la communauté.
Les minerais à l'est du pays, il y a la cassiterite au nord Kivu, les coltans dans le Katanga et c'est on estime que la traçabilité pour les minerais produits à l'est du pays, donc tout se passe bien pour le moment. Vous avez quelle lecture?
Il faudra remettre tout ça dans le contexte. À l'époque, les deux députés et sénateurs américains Dodd Frank, à l'époque, avaient mis en place une réglementation qui a induit un certain nombre de restrictions par rapport à l'alimentation de la guerre chez nous par nos propres minerais, c'est-à-dire nos propres richesses qui venaient nous tuer. Et à l'époque, je me souviens très bien que même certaines autorités étaient opposées au simple fait qu'on a ralenti cette activité et qu'on a mis ça sous contrôle. Mais c'est très bien aujourd'hui que l'on ait la possibilité de savoir d'où vient quel minerai et donc de couper les revenus aux seigneurs de guerre. Mais derrière ça, il faudrait quand même savoir que nous sommes en train de parler des exploitants artisanaux. Ça veut dire des gens qui travaillent dans des conditions de pénibilité extrêmes. À la limite, c'est une irresponsabilité notoire. Moi, je dis, c'est peut-être une solution temporaire, mais très rapidement, il faudrait que les hommes se développent en préservant leur santé. Je ne crois pas qu'il soit possible de travailler dans des conditions d'exploitation manuelle, parce que c'est de ça qu'il s'agit des minerais, parce que simplement, il y a des commerçants qui achètent et qui, eux, font la plus-value. À la limite, à un moment donné, je pense qu'il faut trouver des mécanismes pour être en mesure d'enrôler nos frères dans des conditions de travail qui les rémunèrent viablement et qui les gardent en bonne santé, qui augmente leur espérance de vie. Pour votre information, l'espérance de vie dans notre pays, c'est 48 ans. Ce n'est pas acceptable.
Et peut-être une curiosité avant de terminer cette émission, Al. Vous avez parlé d'une structure que vous êtes en train de chercher à mettre en place par rapport à la promotion des petites et moyennes entreprises. Peut-être y revenir en quelques mots pour une meilleure compréhension peut-être de ceux qui nous écoutent et tous ceux-là qui sont dans les petites et moyennes entreprises. Peut-être que ça pourrait aussi les intéresser.
Nous dupliquons ici une expérience qui marche très bien dans une vingtaine de pays, c'est ce qu'on appelle le Centre international d'opportunités d'affaires. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un centre qui permet à tout le monde de penser grand et numérique, où que vous soyez. Nous avons aujourd'hui le téléphone, ça veut dire qu'en fait quelqu'un qui est à Malembankoulou, il n'est plus isolé, il a la capacité d'être connecté. Ça veut dire qu'en fait nous pouvons lui amener la technologie qu'il faut et lui donner également la possibilité de vendre sa marchandise, non seulement à Malembankoulou, mais à Lubumbashi, à Kinshasa, en Australie, en Chine. Pourquoi? Parce que nous avons mis en place une plateforme internet qui permet d'échanger les informations. Au-delà de ça, nous avons une centrale d'achat qui permet d'acquérir du matériel petit, moyen et grand pour être en mesure de faire de la transformation. Ce que nous donnons de plus, c'est que si vous êtes dans notre réseau et que vous produisez n'importe quel produit, supposons du miel, au fin fond du Bandundu, nous sommes en mesure de le racheter et le vendre à celui qui en a besoin.
Aucune condition pour ceux qui veulent?
Il faut simplement aller sur notre site, c'est www.cioa-rdcongo.com et regarder les activités que nous faisons, s'inscrire et être en mesure de participer.
Voilà, nous allons nous quitter là, dans Panorama économique pour ce samedi. Nous avions comme invité Al Kitenge est stratège, patron de Synergie Group. Il vient d'en parler tout à l'heure. Daniel, on va retrouver nos auditeurs lundi à 18h15 pour Écho d'économie.
Les auditeurs que je salue après ce petit moment de silence.
En tout cas.
Nous revenons avec plus de forme et c'est pour la nouvelle année 2014.
Voilà, Al Kitenge, merci beaucoup.
C'est à moi de vous remercier.
Nous allons nous retrouver le week-end prochain, samedi prochain, pour un nouveau numéro de Panorama économique. Paul Badianama a assuré la mise en onde. Au revoir.